tous et bienvenue à cet épisode de Tech Café. Je suis Guillaume Poggiaspala et en ce mardi 18 février 2020, je serai votre hôte pour ce podcast parce que Guillaume Vendée, qui a passé apparemment un diplôme BTP en accéléré ces derniers temps, il est super occupé, donc voilà, j'espère qu'on l'aura aperçu avoir une discussion animée avec Stéphane Plaza et Sophie Fergeni sur le relooking de la décoration intérieure de Notre-Dame de Paris. Béton brut ou mur végétalisé, c'est toute la question. Effectivement, vous pouvez voter d'ailleurs si vous voulez dans les commentaires de l'émission. Heureusement que je ne suis pas seul ce soir, parce que voilà, j'ai avec moi un fleuron du journalisme tech français, à l'œuvre sur Numérama, site de référence en la matière, qui est Kassim Ketfi. Comment vas-tu, Kassim ?
Ça va très bien. Bon, alors moi je travaille plus quand même sur Fandroid, mais c'est le même groupe. Mais Numérama aussi, j'ai écrit pour Numérama aussi.
Oui, tu as raison. J'aurais dû aussi évidemment mentionner Fandroid. Bien entendu, c'est vrai que c'est un petit peu tout le même groupe, tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode, dont le sommaire va être assez riche toujours, évidemment, puisqu'on va traiter effectivement de l'annulation historique du MWC 2020, mais aussi des retours plus précis sur les téléphones Razer et Galaxy Flip. On évoquera avec nostalgie ou pas du tout la mort d'Essential d'Andy Rubin. On enchaînera sur une partie où on parlera de
gros. Il est encore vivant, on dit, mais oui, sa marque, elle m'a pas
Essential, Essential est beaucoup moins vivante, là. Et oui, on parlera aussi de gros sous avec Google et la presse, Amazon versus le Jedi, quelques nouvelles de Tesla, des résultats de Nvidia. Et puis, on parlera un petit peu de jeux vidéo, le streaming, bien entendu, et un petit peu de quelques petites news sur la PS5. Et puis, nous finirons quelques news en vrac. C'est riche, tout ça. Est-ce que tu es prêt, Kassim, à encaisser tout ça?
Ah bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti.
Allons-y, et oui, sans autre forme de procès, donc, évoquons ce coup de tonnerre, l'annulation du MWC 2020 à cause du virus qui s'appelle désormais, voilà, il a un petit nom, il s'appelle Covid-19, qui continue de s'étendre, et dont, aux dernières nouvelles, l'évolution reste assez imprévisible, donc on s'y attendait un petit peu, vu toutes les désaffections, il y a des dizaines de participants parmi les plus importants qui venaient plus, rappelons qu'Intel, Nvidia, Asus, LG, Ericsson, ZTE, bon, il y avait une véritable hémorragie. Et donc c'est quand même une perte sèche de 450 millions d'euros pour Barcelone, parce que tout le monde n'avait pas annulé sa venue. Et au MWC, c'est des centaines de stands à 1000 euros le mètre carré, et ça fait cher, c'est plus cher qu'à Paris, c'est pour te dire. Ça, on sait, est-ce que c'est plus cher qu'à Paris, c'est même pas sûr. Donc en tout cas, il y avait des frais de participation en plus, de plusieurs milliers d'euros, tout ça c'est remboursé pour tous les exposants qui comptaient venir. Et on ne parle pas du manque à gagner pour le commerce local, puisque le MWC, c'est jusqu'à 100 000 personnes chaque année. Donc les autorités espagnoles sont pas super ravies, d'autant que pour l'instant, on n'est pas en état d'urgence sanitaire, ce qui fait que les assurances ne fonctionneraient pas. Alors Kassim, toi, t'es déçu de pas aller à Barcelone ou tu t'y attendais ?
Alors c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, du coup, dans l'épisode précédent, que j'avais des doutes sur la tenue du Mobile World Congress. Bon, voilà, c'est fait. Moi, je suis toujours un peu déçu parce que c'est le genre d'événement qui fédère un peu l'industrie, en fait. C'est un peu comme l'E3 dans le jeu vidéo. C'est là où t'as toutes les marques qui viennent présenter leurs meilleurs smartphones ou leurs meilleurs produits. Et c'est tout est au même endroit, donc en plus il y a cette espèce de, pas de communion, mais tu vois, c'est fédérateur un petit peu comme événement pour l'industrie, donc c'est toujours un peu triste, je trouve, quand ce genre d'événement est annulé. Après, au-delà de ça, ça reste des smartphones, ça reste de la technologie, voilà, c'est pas très grave. Et puis comme j'ai vu beaucoup passer sur internet, pour des géants de la télécommunication, on espère qu'ils trouveront un autre moyen que de venir en vrai se parler pour échanger leurs annonces au hasard par internet et par
ouais, web. Je pense qu'il y a des solutions technologiques effectivement pour communiquer sur les nouveaux produits, c'est certain. Oui, le virus qui donc continue malheureusement à se répandre, donc là on doit être à près de 2000 morts et on s'approche petit à petit des 100 000 cas répertoriés, c'est une évolution très incertaine. Alors, il faut rappeler que 80% des infections au coronavirus sont bénignes quand même, et que 5% qui donnent actuellement des cas sérieux et potentiellement mortels. Mais il y a quand même un gros impact sur la tech, il y a TrendForce qui a fait une première estimation des répercussions dans la tech du coronavirus, et c'est quand même 12% de télé de production de smartphones en moins. C'est 25% de fibre optique en moins, donc la 5G en Chine pourrait avoir un petit peu de retard à cause de ça. Et c'est aussi 16% de smartwatch, 10% de console, 12% de laptop. Bref, bon voilà, on voit bien à quel point ce qui impacte la Chine impacte le monde entier, quoi, maintenant.
Sur des exemples plus précis, il y a Apple qui a mis à jour, qui a envoyé une notice, une information à ses investisseurs pour dire qu'ils allaient moins vendre d'iPhone que ce qu'ils avaient prévu pour deux raisons. La première, c'est que leur Apple Store en Chine, du coup, sont fermés, donc ils vendent moins d'iPhone aux Chinois. Et l'autre, c'est ce que tu évoques, l'autre raison, c'est surtout qu'ils vont avoir du mal à suivre la production nécessaire d'iPhone pour continuer à en vendre autant. Donc du coup, ils annoncent que on ne sait pas s'il y aura presque des pénuries, mais en tout cas, ils ne devraient pas pouvoir suivre autant la demande que ce qu'ils espéraient, et donc ils en vendront moins que prévu. C'est la deuxième année consécutive où ils ont des problèmes sur ce trimestre-là. L'année dernière, c'était à cause de la guerre entre Trump, la guerre économique entre Trump, le gouvernement Trump et la Chine. Donc, c'est pas de chance pour Apple 2 années de suite. Mais au-delà d'Apple, par exemple, il y a Nintendo qui a sa Switch qui est en rupture de stock au Japon. Et là, on commence à entendre parler que la Switch pourrait être en rupture de stock en Europe et en Amérique du Nord. Donc, voilà, il y a des effets effectivement assez concrets sur la production d'appareils tech. On voit à quel point l'essentiel reste produit en Chine, même s'il y a d'autres points de production en Asie, l'essentiel reste produit en Chine. Et on en reparlera aussi, mais ça a par exemple affecté Shadow. C'est des impacts directs sur des produits que les gens peuvent plus du coup acheter. Bon, ça reste des produits technologiques, c'est pas si grave que ça non plus. Au regard des gens, de la santé des gens, etc. Mais voilà, c'est à mentionner.
Non, bien sûr. On a une pensée effectivement pour voilà parce que les morts quand même
un peu plus grave que...
de semaine en semaine et c'est sûr que voilà on a une pensée pour les gens qui sont là-bas et qui sont malades de ça forcément.
C'est un peu plus grave que pour s'acheter un iPhone.
Oui voilà ça n'a aucune espèce d'importance. Bref nous effectivement voilà les news tech hein, c'est un petit peu l'objet mais bien entendu c'est évidemment complètement secondaire. D'ailleurs on reste dans le mobile dans les téléphones mobiles hein, puisqu'on a eu cette semaine des retours un petit peu plus précis sur les deux stars du moment dans la catégorie gymnastique, tu sais, des pliages et des pliages. Il y a le Razer et le Motorola Galaxy Z Flip, en particulier sur le premier, donc sur les premiers tests, ça se confirme un petit peu, c'est ce qu'on pouvait craindre. Globalement, le Razer offre des prestations dignes d'un téléphone à $400 et il est vendu 1500. La possibilité de plier, c'est donc une valeur ajoutée qui coûte $1100. C'est sans doute trop pour la plupart des gens, et en plus, son unique concurrent, le Galaxy Z Flip, hein, semble être globalement un meilleur téléphone. Quoi. Il est moins cher déjà. Il a un meilleur écran qui est multiposition, donc vous pouvez le laisser à moitié plié, un petit peu comme un petit ordinateur. Il y a une meilleure caméra, il est plus rapide, il est plus robuste. Par contre, ça, c'est difficile à dire. Alors déjà, sur la charnière, c'est difficile à dire sur la durée. Mais le Z Flip se targue d'avoir un écran recouvert d'un verre ultra mince, qu'on espère évidemment plus durable que le plastique du Razer. Et malheureusement, un test mené par Jerry Rig Everything, qui est une chaîne YouTube qui s'amuse à massacrer des téléphones, montre que l'écran peut être rayé par ton ongle, globalement, hein, puisque le test qui soumet à l'écran a les rayures faites avec des pointes de dureté croissante, qui montre qu'il n'est pas vraiment meilleur que le Razer, quoi, hein, ou le Galaxy Fold, d'ailleurs. Pour le moment, dur de conclure quand même, parce que Samsung affirme que le verre est recouvert d'une couche protectrice comme le Fold. Et donc, je suis pas sûr, en fait, de ce que le YouTuber raye. Est-ce qu'il raye le verre de protection? Est-ce qu'il y a le truc? Je sais pas, Kassim. Est-ce que c'est un malentendu? Est-ce que ce verre mou est vraiment trop mou? Ou est-ce que le Galaxy Flip va flopper?
Oula. du coup, autant sur le Razer, je peux pas trop répondre parce que, enfin, j'ai lu les tests comme toi et effectivement, ça a pas l'air terrible.
Ouais, il y a beaucoup de secrets autour de ce verre. Ouais. Samsung dit absolument rien dessus. Hein.
Autant sur le Galaxy Z Flip, par contre. Là, par contre, je l'ai pu le prendre en main. Enfin, là, à la rédaction, il est en test. C'est pas moi qui le teste, mais ouais, par contre, je l'ai pris en main. Alors déjà, il est très impressionnant. Enfin, le design est vraiment réussi. Ça a rien à voir avec le Galaxy Fold de l'année dernière. En termes de, enfin, je trouve d'intelligence dans le design et de réussite, le produit, j'ai l'impression, est beaucoup plus mûr déjà. Et l'effet au tactile, c'est là où ça me fait penser que ça ressemble quand même beaucoup à du verre. C'est que ça fait pas plastique en fait quand tu mets le doigt dessus. Par contre, le Galaxy Fold faisait vachement plastique, je trouve. L'écran intérieur pliable faisait très plastique sous le doigt. On aurait dit vraiment les vieux écrans tactiles. Enfin, ça donnait pas l'impression de solidité. Là, le Galaxy Z Flip, au contraire, ça donne une très bonne impression. Le seul point négatif, c'est la pliure qui est assez marquée. Quand tu l'as en face de toi, tu la vois pas forcément trop. Dès que tu mets t'inclines un peu le téléphone, tu la vois. Et par contre, c'est au doigt en fait. Sous le doigt, tu sens que ça en fait. Ça fait une petite bosse en fait quand l'écran est déplié. Ça fait une petite pliure. Donc tu la sens vraiment. Après, est-ce que c'est gênant? Ça chacun de décider. Forcément, sur un smartphone aussi cher, chaque défaut peut être considéré comme gênant. Je trouve que c'est pas à l'usage. J'ai pas l'impression que ce soit si gênant que ça. Je pense que tu t'y habitues. Et en tout cas, vraiment, faut pas l'enterrer trop vite, ce Z Flip. J'ai l'impression qu'il y a, surtout à cause des déboires du premier Galaxy Fold, il y a eu une sorte d'attente. Enfin, on a l'impression que chaque smartphone pliable, on attend que les journalistes les aient pour voir qui va le mieux casser le téléphone, ou le mieux au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire, le mieux réussir à le descendre en flèche parce que, bah, déjà, parce que oui, c'est des appareils qui sont vendus très cher pour ce qu'ils font. Mais aussi pour le côté, des fois on aime bien descendre un peu la nouveauté. Enfin, on aime bien, voilà. On sent qu'avec le Galaxy Fold, ça a créé un peu une envie comme ça. Je trouve, notamment, je sais pas pourquoi, de la part des Américains, j'ai l'impression qu'il y a particulièrement une attente des fois de vouloir. C'est à qui dira le plus de mal,
c'est
quoi.
Des grosses brutasses.
Non, mais c'est à qui dira des fois le plus de mal, j'ai l'impression. Et en tout cas, voilà, j'ai été vraiment positivement surpris par celui-là de téléphone. Je dirais, j'irais pas jusqu'à le conseiller parce qu'il coûte effectivement 1300 balles là ou 1500 balles.
Ouais, mais 3000-3004, oui, c'est quand même beaucoup. Hein.
Mais c'est c'est une super version 1. J'ai l'impression que c'est une super version 1. J'ai l'impression que il coche. Enfin, ça reste un bon. Tu vois, le Razer, autant le Motorola Razer, apparemment, c'est un mauvais smartphone. Autant celui-là, ça a l'air d'être quand même un bon smartphone.
C'est pas vraiment un mauvais smartphone, le Razer. C'est juste que le différentiel entre la valeur, si tu veux, des composants qu'il y a dedans, des prestations, et la valeur du téléphone, elle est encore beaucoup. Le différentiel est encore beaucoup plus important que sur le Galaxy Z Flip, qui reste quand même à peu près un flagship, quoi. Alors que le Razer, lui, c'est carrément un milieu de gamme qui a un prix qui est bien au-delà, quoi, du flagship.
Ouais. Il se permet d'être plus cher que le Z Flip, d'ailleurs, je crois.
Exactement. Ce qui est absolument pas justifié, d'ailleurs. Faut le bien dire, hein, vu la qualité de l'ensemble, quoi.
Donc, voilà, c'est une bonne version 1. Bon, c'est le genre de produit dont il faudra attendre les itérations, à mon avis, pour que ce soit un peu plus courant. Mais le design fonctionne vachement. Un dernier exemple, c'est Omar qui s'occupe du test chez nous, qui me le montrait aujourd'hui. Les boutons de volume sont sur la tranche du téléphone, sur la tranche droite. Quand tu as le smartphone déplié dans la main, le bouton vers le haut augmente le volume, le bouton vers le bas descend le volume. Mais quand tu replies le smartphone dans ta paume, quand il est fermé, le clapet est fermé, le bouton de volume s'inverse, puisque en fait quand il est fermé, le bas passe derrière et l'avant passe au-dessus. Je sais pas comment l'expliquer à l'oral, mais en gros, du coup, le bouton qui est le plus haut baisse le volume et le bouton qui est le plus bas augmente le volume. Et ce qui est, alors c'est un peu bizarre à dire à l'oral comme ça, mais c'est très intuitif en fait, c'est très logique quand tu replies le téléphone en fait. Faut imaginer, mais quand tu replies le téléphone en fait, le bouton bouge physiquement et donc tu t'attends instinctivement à ce que le bouton échange de fonction, en fait, et c'est bien le cas, ils y ont bien pensé. Donc ça montre quand même qu'il y a eu une certaine réflexion dans le produit, et il est vraiment bien conçu, j'ai l'impression.
Ouais, mais de toute façon, on a l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'ingénierie qui est allée dans la charnière, que ce qui a l'air beaucoup plus fiable, solide, et en même temps, moins sujette à prendre des merdes, des petits bouts de sable ou des petits grains de trucs que celle du Razer. Et puis bon, c'est vrai que cette histoire d'écran comme ça, qui a l'air plus fragile, et qui est très probablement d'ailleurs, enfin qui est même clairement plus fragile que les écrans de téléphone standard, faut quand même voir aussi, se souvenir que un smartphone que tu peux fermer avant de le mettre dans la poche, il est exposé à 90% de moins de problèmes qu'un téléphone que tu mets directement, quoi. Donc, est-ce que c'est si grave que ça que l'écran soit plus fragile? C'est sans doute un petit peu malheureux, mais c'est pas aussi grave que si c'était vraiment un téléphone tout à plat que tu mettais avec tes clés, quoi, tu vois, dans ton sac, je pense.
Et qu'est-ce que c'est satisfaisant de s'amuser à fermer et ouvrir le clapet en permanence, parce que dès que tu l'as en main, moi je peux pas m'en empêcher, que je le fais tout le temps. Et bien sûr, ça permet via une option quand il sonne, de prendre les appels, tu déplies et quand tu replies, ça raccroche évidemment.
Comme le Razer, ouais. C'est très satisfaisant, effectivement, le Razer. D'ailleurs, la plupart des téléphones de cette époque-là, hein, c'est pour ceux qui ont connu les téléphones clamshell comme ça, qui s'ouvrent et qui se ferment, c'était comme ça. Tu ouvrais, tu pouvais téléphoner, tu refermais, ça coupait la communication. Et c'est vrai que c'est d'autant mieux que tu t'es embrouillé la tête avec le mec avec qui tu parlais, quoi. Tu vois, tu t'es embrouillé la tête, t'as une conversation très désagréable, là, tu fermes le téléphone, la claque, ça coupe tout. Je sais pas, mais c'était très agréable. Bon, pas tous les, je sais pas si ça va faire vendre des téléphones, mais écoute, oui, il y a quelque chose d'un petit peu instinctif à tout ça, en tout cas. Sinon, pour d'autres, encore d'autres types de téléphones de ce type-là, on a vu un nouveau visuel qui a été présenté par CNET d'un prochain terminal de TCL qui serait enroulable. Donc le téléphone est en fait télescopique, hein, c'est-à-dire il y a une moitié qui rentre dans l'autre, et l'écran qui s'enroule, hein, sur le côté gauche à l'intérieur du smartphone quand il est en mode normal, et il peut doubler sa surface comme ça en le déroulant, en tirant. Donc c'est un concept qu'on aurait dû voir au MWC, hein, mais qui va là sans doute se dévoiler bientôt en vidéo. Bon, il y a peu de chances qu'on ait du verre sur celui-ci non plus, Kassim, je pense. Alors ton téléphone, je te l'emballe comment? Tu veux un pli, deux plis, tu veux que je te l'enroule?
Oui, tiens, d'ailleurs, tu me fais penser qu'il y a, on a, il y avait Samsung qui en a parlé il y a pas longtemps aussi, qui ils ont dit, nous, on est capable de faire un écran qui se plie en trois, mais on l'a pas montré parce qu'on n'a pas envie pour le moment, mais on en est capable, hein, bien sûr. Et c'est, ça faisait un peu, si, si, on peut. Ouais, c'était un peu étrange comme déclaration, je trouve, de la part de Samsung. Mais du coup, pour TCL, alors je suis convaincu par le fait qu'on aura des, enfin, que c'est intelligent d'avoir des smartphones qui se, là, c'est plutôt dans la, en fait, c'est la tablette qui se transforme en smartphone. Faut le visualiser comme ça. C'est un peu comme le Galaxy Fold. Moi, c'est en tout cas comme ça que je l'exprime, contrairement au Z Flip où c'est le smartphone qui rentre dans la poche de façon un peu plus compacte. Là, c'est la tablette qui se transforme en
Ça, c'est
smartphone.
deux écoles. Là, on a plus de surface grâce au dépliage au lieu d'avoir moins d'encombrement. Donc, l'encombrement d'un téléphone normal, sinon, quand il est enroulé.
Et du coup, je trouve que sur le papier, bien sûr, ça donne envie. Dans la vraie vie, après, le problème, c'est TCL. J'ai pas vraiment beaucoup de confiance dans la marque. En vrai, je sais pas en qui j'ai confiance à part Samsung pour concevoir ce genre de téléphone pour le moment. J'ai l'impression que déjà que Samsung a eu des problèmes avec le Galaxy Fold, j'ai l'impression que ce sera encore
Bah,
pire chez les autres marques, quoi. Mais bon, on
je sais
verra
pas,
bien.
Huawei me paraît bien place aussi, hein. Il a l'air d'être. Enfin, le Mate X avait convaincu certains journalistes qui avaient pu l'avoir en main, me semble.
Oui, bien sûr, mais après, c'est toujours pas, enfin, en plus, le problème de ce genre de téléphone, c'est que pour l'instant, on est sur une première génération et que, bah, les
Oui,
prises
bien
en main et
sûr.
les tests se passent peut-être bien, mais par contre, tu sais pas sur au bout de 3 à 6 mois, lequel tiendront encore la route ou pas, quoi. Et
Ouais,
ça,
sur le, c'est sûr,
impossible à
sur le
dire.
long terme, c'est assez compliqué sur le long terme. D'ailleurs, sur le long terme, il y en a qui n'ont pas survécu, hein. C'est le cas d'Essential. Essential, c'est fini, c'était la start-up d'Andy Rubin, donc le papa d'Android, qui a officiellement annoncé qu'elle jetait l'éponge après 3 ans d'existence tumultueuse. Pas de successeur à l'Essential Phone, donc, et l'abandon d'Essential Home, d'Ambient OS, et du Project Gem, tu sais, le téléphone oblong qui était, je sais pas, moins 51e, tu vois, le truc de forme phallique là, dont j'ai jamais vraiment compris la pertinence. Donc l'Essential Phone, pionnier des écrans à trous, souvenez-vous, qui devait avoir un catalogue de modules, des modules magnétiques qui devaient comme ça se clipser sur le téléphone. Bon, ben ça a vécu, on n'en a pas vu beaucoup, il y en a eu deux en fait. Donc on y repense avec nostalgie ou pas du tout, Cassima, Essential?
Alors déjà pas du tout parce que forcément le personnage d'Andy Rubin a un petit peu
Oui, ces derniers
terni la
temps.
marque, si je puis dire. Je pense que c'est une des bonnes raisons pour laquelle Essential a pas vraiment marché. Bon, en dehors du fait que c'est très compliqué de se lancer dans un marché des smartphones et que par ailleurs on n'en a pas parlé. Tu parlais des modules, il y avait aussi ils voulaient investir la maison connectée. Ils voulaient à la base faire plein de produits IoT, je sais pas quoi. Bon, ils utilisaient un petit peu les mots qui faisaient bu le buzz à l'époque, hein. Donc ils faisaient des voulaient faire de la maison connectée. Et ouais, Andy Rubin qui a été bah, tout au long de la vie de la marque Essentielle. En fait, il y a eu les accusations et de harcèlement ou de violence sexuelle de la part de Andy Rubin
Les employés, oui.
sur ses employés pendant
Ouais.
qu'il est à l'époque où il était chez Google, donc forcément ça a pas
Et
dû
puis son
aider.
parachute doré,
Et son
surtout.
parachute doré qui avait été enfin accordé un
En
peu de
plus.
façon masquée avant que ce soit découverte dans la presse. Donc bref, tout ça a forcément eu mis des difficultés, je pense, pour Essentiel pour récolter des fonds pour s'étendre en dehors d'un marché qui était déjà compliqué, quoi. Donc bon, regret, je sais pas. Ah si, faut mentionner juste l'application Newton Mail qui ferme ses portes, du coup, que Essential avait racheté il y a un an. On sait pas trop pourquoi, et du coup, bah, ils font partie du l'enterrement, là. L'application va fermer le
Oui.
30 avril, quoi. Enfin,
Ouais, une pensée donc pour Newton Mail, hein, qui est Essential. Dont Essential aurait été le boulet qui
Ouais.
donc a coulé à pic avec lui. C'est vrai que c'est malheureux quand même, effectivement. Bon, et on continue un petit peu en mobilité, mais plus général, puisqu'on va parler un petit peu de Huawei. Ça y est, les Américains ont des preuves que Huawei a des capacités d'espionnage et ils sont même prêts à les dévoiler, ces preuves. Enfin, pas à moi, hein, pas à nous. D'après le Wall Street Journal, les gouvernements anglais et allemand auraient des documents entre leurs mains. Et plus précisément, en fait, la loi américaine stipule que donc les fabricants doivent ménager une porte dérobée dans leur infrastructure pour que les forces de l'ordre puissent écouter le réseau, hein, si nécessaire, dans le cadre d'une enquête. Donc cette backdoor doit être exclusive aux fournisseurs d'accès, et puis le fabricant, lui, il n'est pas censé pouvoir l'utiliser une fois qu'il a livré le produit. Et c'est là que Huawei aurait été pris la main dans le sac, là c'est dans le sac de fil, hein, je suppose, à se maintenir un accès à cette backdoor qui lui serait resté accessible avec ou sans consentement de l'opérateur. C'est un accès secret que les autorités américaines auront repéré dès 2009, donc dans le matériel 4G, hein, alors bien qu'ils n'indiquent pas explicitement si Huawei s'en est servi un jour. Je ne sais pas s'ils le savent pas, s'ils le divulguent pas. En tout cas, de son côté, Huawei affirme qu'il n'a jamais espionné, et surtout qu'il il renvoie un petit peu les Américains dans leur but en évoquant la surveillance de masse qu'ils pratiquent eux-mêmes, y compris sur leurs alliés, hein, bien sûr, comme le Snowden l'a démontré. Et il y a même pire, hein, Huawei affirme dans un communiqué de presse, que, qui fait d'ailleurs suite à cet article, que accéder au réseau lui serait impossible sans le consentement de l'opérateur, bref, que ça serait des mensonges, donc les infos sont pas publiques pour l'instant, donc difficile de dire quoi que ce soit de plus. Kassim, qu'est-ce que t'en penses de ces preuves? Est-ce que c'est un réel danger ou est-ce qu'on nous rejoue les armes de destruction massive en Irak, tu te souviens?
On nous rejoue les micro-puces chinoises dans les serveurs
Exactement, il y avait aussi cette histoire des micro-puces dans les serveurs, oui, c'est vrai, qui n'a jamais été confirmée. Hein.
Et que Bloomberg n'a jamais non plus retiré, au fait, au passage. Hein. Ils ont jamais voulu...
C'est assez fou, d'ailleurs.
Bref, du coup, honnêtement, c'est impossible à dire, je trouve, comme ça. Il y a quelque chose de karmique, je trouve, dans cette histoire, effectivement, avec les Américains qui se plaignent de se faire espionner sur la base d'un système qu'ils ont eux-mêmes mis en place pour espionner les gens. Je trouve ça quand même assez incroyable. Après, au-delà de ça, j'ai pas vraiment d'opinion. Enfin, c'est impossible, je trouve, de définir. Qui a raison ou qui a tort dans cette histoire ou qui ment là comme ça sans plus de preuves. Honnêtement, oui, ça me semble difficile à dire.
Ouais,
après,
c'est clair.
Là, on a vu aujourd'hui que les Américains, toujours contre Huawei, ils vont essayer de trouver un moyen pour bloquer la fabrication de puces par TSMC, en fait, qui est le fabricant qui fabrique des processeurs pour Apple, Huawei et plein d'autres, qui est le fabricant taïwanais de mémoire, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et donc, le gouvernement américain veut étendre le blocage qu'ils ont mis sur le Play Store que Huawei ne peut plus utiliser. Ils veulent étendre ce blocage à TSMC. Est-ce qui empêcherait Huawei d'avoir
la fabrication de ces puces? C'est pire que ça en fait. Ils veulent modifier le Foreign Direct Product Rule, pour empêcher Huawei d'avoir accès à des puces qui utilisent des technologies de fabrication qui ont recours à des brevets américains. Parce que par exemple TSMC, comme tous les fabricants, tous les fondeurs, hein, ils vont utiliser une multitude de technologies industrielles, c'est extrêmement compliqué, donc il y a des milliers d'étapes de fabrication, donc ils vont probablement utiliser une multitude de brevets, et donc parmi ces brevets, par exemple, il y a ceux d'Applied Materials, donc ils sont spécialisés dans la physique des matériaux, qui donne en fait des briques technologiques à pratiquement tous les fondeurs, dont TSMC. Mais Applied Materials, c'est donc une entreprise américaine qui donc a des brevets aux États-Unis, et donc s'il modifie comme ça le Foreign Direct Product Rule, eh bien TSMC pourra plus avoir recours au brevet d'Applied Materials, ce qui fait que Huawei ne pourra pas avoir recours à TSMC parce qu'il utilise des trucs américains. Mais du coup, ça veut dire que ça... C'est vrai que ça emmerderait non seulement Huawei, mais aussi TSMC, énormément.
Oui, bien sûr, oui.
Et ça pourrait potentiellement emmerder énormément de monde, puisque
on
est mondialisé, quoi.
Oui, et puis... Enfin...
C'est pas sûr que ce soit jamais voté, hein, parce que ça va tellement emmerder de monde. Le simple fait que ça ait été évoqué, moi, ça me ferait lourdement réfléchir.
Non, mais ça montre à quel point le gouvernement américain veut. En plus, c'est précisément contre Huawei, tu vois. C'est pas. Ils ont aucun problème, je sais pas moi, avec Xiaomi ou OnePlus. Tu vois, c'est.
C'est potentiellement pour toutes les entreprises qui sont blacklistées, en fait. Puisqu'une entreprise blacklistée peut pas avoir accès à des technologies qui. Contiennent des technologies américaines, donc même
oui,
si c'est
oui,
une petite partie. Donc ça pourrait être ZTE aussi, par exemple. Tu vois, mais effectivement, c'est vraiment une charge contre Huawei. Donc t'as raison, c'est quand même assez, c'est assez énorme. Mais comme je te dis, même si ça passe jamais parce que c'est trop puissant et que ça passera pas, le simple fait que ce soit discuté, si t'es un acteur industriel qui souhaite avoir un minimum de souveraineté sur ton activité, ça va te faire lourdement réfléchir ce genre d'évocation, tu vois.
Bien sûr.
Donc c'est quand même lourd de sens, effectivement, j'ai vu passer ça tout dernièrement. C'est très intéressant, effectivement, ça permet d'envisager qu'il y aura encore beaucoup d'étapes à cette saga comme ça entre les États-Unis et la Chine, voire entre les États-Unis et le reste du monde d'ailleurs. Bah écoute, on parle de gros sous, on parle de gros budget, donc on va changer de rubrique avec quelques news tournées business. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que Tech Café est un podcast gratuit, oui, mais financé par ses auditeurs. Via la plateforme Patreon, donc avec Patreon, vous pouvez contribuer à l'existence et à l'indépendance de Tech Café et à rendre nos vies plus belles à partir d'un euro par épisode. Alors attention, bien sûr, vous pouvez plafonner vos versements hein, et résilier à tout moment, bien entendu. Donc voilà, si vous trouvez que le podcast est cool, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site techcafé.fr, il y a tous les liens qui vont bien. En attendant, la presse pourrait avoir de l'argent de Google. Et oui, toujours selon le Wall Street Journal, là, décidément. Ça concernerait d'abord les pays d'Europe et la France, d'ailleurs, en particulier. Il y a des accords de licence qui pourraient se faire avec de grands médias, donc de grands journaux, pour qu'ils apparaissent sur un nouveau produit Google. Payons ou pas, on ne sait pas encore. Même si sur le fond, c'est vrai que ça rappelle forcément Apple News Plus, qui lui est payant, je rappelle, à 10$ par mois. Donc finalement, après tous ces combats, après la controverse de la loi sur le copyright, hein, est-ce que ce ne serait pas une belle victoire pour la presse, à supposer que les deals, évidemment, soient intéressants?
Le souci qu'on a toujours, je sais que c'est une position qui est assez partagée dans ma boîte, enfin chez Humanoid du coup, c'est que ce genre d'argent, tu sais, c'est cool quand il arrive, tu sais jamais quand il va repartir. Ça me fait penser, ça me fait tout de suite penser à tout ce qui est Google et d'autres acteurs de la tech ont mis en place comme fonds des fois pour financer des médias, genre la version française, je crois, de Wired comme ça qui avait été financée par un groupe tech. Ou des médias comme ça. Le problème, c'est que c'est un peu de l'intraveineuse, quoi, en fait, comme financement, tu sais jamais, tu vois, Apple News, par exemple, ou Google News, c'est plus ton contenu que tu vas réussir à mettre en avant en étant, en faisant des bons articles, qui parlent bien du sujet, etc. Là, c'est, faudrait voir quel type de contrat serait passé, mais après j'imagine que tout argent est bon à prendre pour la presse en général hein, c'est vrai que je me méfie un peu toujours de ce type de financement. Sans parler de la presse, en reprenant le point de vue de Google directement, à partir du moment où Apple a son abonnement de presse, j'imagine que Google veut son concurrent aussi et pense à transformer Google News, qui est déjà très 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 populaire, qui est probablement la méthode d'accès à l'actualité numéro une chez pas mal de monde, bah peut-être imaginer une version payante où dedans t'aurais les articles gratuitement, les articles premium de certains médias, je pense à genre je sais pas moi, Le Figaro ou Le Monde par exemple, ce qui t'évitera de cliquer sur un article qui t'intéresse et en fait te retrouver devant juste le premier paragraphe qui te demande après de payer le reste de l'article. Bah là, tu aurais, si t'es abonné à Google, j'imagine que tu aurais accès peut-être à tout l'article. J'imagine que ça aurait un intérêt et pour les lecteurs et pour Google, évidemment.
Ouais, ça va dépendre aussi pas mal si c'est gratuit ou payant, en fait, hein, si c'est vraiment une subvention comme ça. Enfin, si Google accepte finalement de financer de rémunérer la presse, hein, pour, comme une sorte de service mutuel, ou si c'est un abonnement payant dont la presse recevra une certaine fraction, c'est... Bon, j'ai tendance à penser que c'est quand même une porte entrouverte, on va dire, donc c'est quand même plutôt une bonne nouvelle a priori. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra voir les conditions, t'as raison. Et bon, rapidement, on peut aussi me donner des nouvelles du méga contrat Jedi, hein, dont on a parlé il y a plein de fois ici, un contrat de 10 milliards de dollars avec le Pentagone, remporté par Microsoft, hein, des grandes dames d'Amazon, qui attaquent en justice. Alors Jeff Bezos affirme que Trump l'aime pas, ça c'est sans doute incontestable, et que... ça c'est beau.
La et preuve est facilement... voilà, il y a 46 000 tweets de Trump où il déteste Bezos, donc si tu veux, la preuve est facilement apportable là, et c'est pas comme Huawei...
On a la preuve de ça. Et que ce serait pour ça qu'il n'a pas eu le contrat. Ce qui n'est pas totalement impossible entre nous, d'ailleurs. Mais bon, le Department of Defense, lui, il n'est pas ravi, évidemment, parce que pour sa part, ce qu'il voit, en fait, c'est le contrat gelé pendant toute la procédure de justice. Et donc, ça va ralentir tout le processus de modernisation de l'armée. D'ailleurs, il y a un coût associé à 7 millions de dollars par mois de retard. Et d'ailleurs, Amazon doit aussi fournir 42 millions de cautions, de provisions, qu'il ne reverra pas, d'ailleurs, s'il perd son procès. Bon, c'est des grosses sommes pour nous, mais bon, je pense que pour Bezos, c'est une petite bricole, hein, puisque bon, je veux dire, le mec est assis sur 130 milliards de dollars, donc 42 millions pour emmerder Trump, honnêtement, moi, je pense que je les aurais mis aussi sans aucun problème, donc c'est le début d'une nouvelle saga trépidante, on va suivre avec intérêt, je suppose.
C'est plus, pour le coup, c'est plus Microsoft, j'ai l'impression que ça va mettre dans la panade dans le sens où.
Complètement, ouais.
Enfin, un contrat de, je pense qu'un contrat de 10 milliards de dollars, enfin, quand tu le vois se faire bloquer, t'es quand même un petit peu triste, quoi. Intérieurement.
Oui, je pense que là, il y en a un qui a une petite larme à l'œil. Enfin, ou pas, enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, Jeff, décidément, ça a été partout, puis il s'engage aussi pour le climat. Dans un post Instagram, il promet pas moins de 10 milliards de dollars. Je sais pas, c'est pas les mêmes, apparemment. Enfin, je sais pas si c'est ceux qu'il veut récupérer du contrat, mais je pense pas. Donc, 10 milliards de dollars à des ONG, des laboratoires de recherche, donc, sur des questions climatiques comme ça. Alors, recapture du carbone, technologie décarbonée, ou réduction de l'impact, hein, du réchauffement. Il n'y a pas de détails, vraiment, hein. Mais bon, voilà, 130 millions, ça, je le disais, 130 milliards de dollars, donc vous inquiétez pas, ça va pas le mettre à la rue. C'est quand même une initiative qu'on ne peut que saluer, hein, surtout qu'il a bien mentionné que ce serait pas des investissements, mais uniquement des bourses, donc du caritatif. Et donc, parallèlement, et peut-être aussi sous la pression de ses propres employés, hein, il y a Amazon qui prévoit d'être carbone neutre en 2040 et carbone neutre net, c'est-à-dire sans compensation, je pense. Hein. Enfin, je pense que c'est ça que ça veut dire. Parce que la neutralité carbone, le plus souvent, c'est à grand coup de compensation, ouais. Et ça devient presque la mode. Tout le monde veut être carbone neutre.
Bah, tout le monde annonce être carbone neutre en signant des chèques, quand on voit.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est quand même plus sexy au niveau relations publiques, hein, et pour les compagnies aériennes, c'est beaucoup plus sexy, tu vois, ça pourrait devenir un critère existentiel même. Et jusqu'à, d'ailleurs, Delta Airlines a annoncé cette semaine de viser la neutralité carbone, et donc il va mettre 1 milliard de dollars d'investissement sur la table. C'est pas trop non plus à quelle échéance, mais bon. Le message, donc, c'est globalement, pas de souci, prenez l'avion autant que vous voulez, c'est compensé.
C'est vraiment l'idée, c'est de se dire, te sens pas coupable quand tu prends l'avion avec notre ligne, parce que de toute façon, t'inquiète, on compense, donc ça veut dire, enfin, dans la tête du consommateur moyen, je pense que ça veut dire, j'ai pas pollué, quoi. Donc,
Ouais, et c'est pour ça qu'on va peut-être essayer de remettre un petit peu les trucs
bien
à
sûr.
Voir, parce que Delta, c'est une des plus grosses compagnies aériennes au monde, il y a presque 6000 avions chaque jour qui partent Delta Airlines. Et un avion de ligne électrique, ça n'existe pas et ça n'existera pas, hein, tant qu'on n'aura pas trouvé de batterie qui sera mais très très largement plus efficace que ce qu'on a, puisque la densité énergétique d'une batterie, la densité énergétique d'un baril de kérosène, ça n'a absolument rien à voir, hein, c'est un ordre de grandeur supérieur. Donc il n'y a pas 36 solutions, hein, au-delà des économies avec des avions plus récents, plus efficaces. Donc il faut passer par la compensation. Mais la compensation, bon, c'est vrai, c'est mieux que rien. Mais c'est pas la panacée, parce que recapturer le carbone, c'est pas simple. Donc il faut faire des machines, il y a des machines qui existent, hein, qui font ça, mais elles sont chères pour le moment. Je veux dire par là que la tonne de CO2 capturée, recapturée dans l'air est chère. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce CO2? Ben, il est stocké sous une forme liquide, en général sous pression. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stocker le carbone capturé et le garder pour genre l'éternité, tu vois. Ce qui est un vrai gros challenge scientifique. On sait pas exactement comment faire, pour que ce soit vraiment durable, c'est pas exactement où le mettre. Et puis bon, sinon, il y a les arbres. Mais là encore, c'est pas si simple. Un arbre, ça met des années, voire des décennies à recapturer le CO2 qui est dégagé très très rapidement par les avions. Et puis c'est pas si pérenne que ça, en fait, un arbre, si tu réfléchis 2 secondes là, parce que déjà, c'est con, mais un arbre, ça finit par mourir. Et c'est triste, mais un arbre mort, ça recapture plus que dalle. Donc il faut qu'il vive, le plus longtemps possible, ce qui n'est pas acquis. Regarde, il y a la plantation géante en Turquie, là, il y a eu 11 millions d'arbres qui ont été plantés, l'automne dernier, il y a 90% des sapins qui ont été plantés qui sont déjà morts de la sécheresse. Et bon, en plus, un arbre, bah, ça brûle assez facilement, en fait, hein, soit sur pied, comme en Australie, soit plus tard, sous forme de poutre, par exemple dans une, une cathédrale. Mais bon, à long terme, c'est difficile de s'assurer, en fait, que des arbres ne brûleront jamais en relarguant, donc, évidemment, tout le CO2. Donc, la compensation carbone, c'est pas génial, en fait, hein. C'est beaucoup moins bien de compenser le CO2 qu'on dégage plutôt que de ne pas le dégager. Donc, Delta aura beau dépenser des milliards et des millions de dollars en com, hein, les avions ne sont pas carbone neutre du tout. Les solutions technologiques qui vont mettre des années à se mettre au point, si jamais elles se mettent au point, et les arbres remettront des décennies à recapturer le CO2 des voyages Paris-New York. Donc, et ça, c'est s'ils crèvent pas avant une vague de chaleur qui sera due d'ailleurs, pourquoi pas, au changement climatique. Donc, bon, ok, la compensation, c'est mieux que rien, mais franchement, ne vous laissez pas abuser, quoi. Les compagnies aériennes carbone neutre, ça n'existe pas et ça n'existera pas avant un très très gros moment. Je suppose que t'as remarqué aussi cette espèce de mode qu'il y a, et je crois qu'il y a Ryanair aussi qui commence à faire ce genre de com. Il y a énormément de compagnies
toutes les boîtes qui prennent un peu d'importance en termes de taille et qui ont besoin de communiquer. Alors tu t'as cité les compagnies aériennes, on a parlé d'Amazon, mais toutes les boîtes tech et toutes les boîtes un peu, je pense
Microsoft
à des trucs comme
aussi,
Alors, Microsoft, ils sont allés encore plus loin. Ils ont annoncé qu'ils voulaient être carbone négatif et rembourser le carbone qu'ils ont émis depuis leur création. Mais toujours pareil, c'est beaucoup de contrats, enfin, de voilà, de rachat de en taxe carbone, quoi, en gros. Mais mais du coup, alors après Microsoft, ils ont quand même annoncé aussi, ils ont une échéance aussi de leur côté pour vraiment passer sur le vrai carbone neutre, si tu veux, et même le vrai carbone négatif, c'est-à-dire ils veulent émettre, enfin ils veulent être plus,
alors c'est vrai que si
plus énergie que ce qu'ils en prennent en
oui
gros,
voilà c'est ça voilà. Parce que pour Microsoft, comme c'est des gros data centers en grand particulier, c'est une question d'énergie électrique, donc il est possible de fabriquer des trucs, voilà, des énergies
pour les boîtes tech, c'est possible. C'est pour les
voilà, c'est beaucoup plus c'est ça. C'est ça, quand vous avez un avion qui consomme forcément du kérosène, c'est compliqué d'être carbone neutre. Alors quand vous avez un data center qui fonctionne à l'électricité, vous pouvez au moins avoir l'espoir de créer de construire une centrale qui fasse l'énergie, quoi. Donc c'est quand même une grosse différence, ouais. Donc voilà, c'était le mini coup de gueule contre les compagnies aériennes qui disent « Vous volez carbone neutre, bien sûr, bien sûr ». Bon, on reste un petit peu avec des trucs à moteur, avec Tesla, et avec des milliards, hein, toujours, puisque Tesla est en croissance rapide. Selon Elon Musk, hein, Tesla dépense de l'argent aussi vite que possible, je cite, même si c'est si la construction de sa 4e gigafactory en Allemagne est en pause pour des raisons bassement écologiques, je suis sûr qu'il n'a pas eu ce genre d'ongles en Chine d'ailleurs. Tesla fait feu de tout bois, hein, si j'ose dire, puisque avec 6,3 milliards de chiffre d'affaires l'an dernier, Tesla veut lever encore 2 milliards de fonds via une vente d'actions. Bon, c'est pas nouveau, hein, des levées de fonds arrivent chaque année ou presque, mais la rentabilité de l'entreprise avait fait dire à Elon Musk lui-même que ce serait pas nécessaire. Donc c'est un petit peu étonnant, enfin bon. Mais finalement, Tesla compte croître encore plus vite que prévu et continuer sa croissance assez incroyable. Et d'ailleurs, on peut finir rapidement avec Elon Musk, avec SpaceX, qui vient de recruter une vraie pointure dans le domaine spatial, qui est donc William Gerstenmayer. William Gerstenmayer, c'est un ingénieur aérospatial de 65 ans, hein, qui est donc senior, et qui a un gros CV, puisque pendant 15 ans, il a été responsable des vols habités à la NASA, et avant ça, de 2002 à 2005, il était responsable du programme de la station spatiale internationale. Et avant encore, il avait été responsable de la navette spatiale. Donc le mec rajoute quand même une grosse dose de crédibilité à SpaceX, parce qu'il va travailler comme consultant d'abord sur les vols habités. Et comme il a un énorme carnet d'adresses, Gerstenmayer, en fait, il achève de faire de SpaceX un vrai gros poids lourd du secteur spatial, peut-être un incontournable de la conquête spatiale de demain, en fait. Hein. C'est une très très grosse prise, et ben oui, c'est vrai qu'avec Gerstenmayer, c'est que SpaceX envoie des gens dans la Lune, et peut-être même sur Mars un jour, ça devient relativement plus crédible.
Ouais, j'ai pas grand-chose à dire dessus, moi j'attends que ça avec impatience, donc tant mieux, enfin, moi je suis tout à fait favorable à l'évolution de SpaceX, vu que c'est quand même le candidat principal, même s'il y a aussi la compagnie dont j'ai oublié le nom de
Blue Origin.
Ouais, voilà. Pour l'instant, SpaceX, ça reste un peu, j'ai l'impression, la marque la plus en tête.
Ils ont beaucoup d'avance sur Blue Origin, hein, il faut le reconnaître.
Sur ces idées-là, donc du coup, sur ces problématiques-là. Donc du coup, moi, je suis ça assez de loin pour l'instant, mais je suis très impatient, enfin, je suis très content, quoi.
Ouais, ils sont là depuis longtemps. Hein. D'ailleurs, c'est Gerstenmayer lui-même qui, en 2008, avait donné un contrat à SpaceX pour. Donc, c'était un contrat où il fallait ravitailler la station spatiale. Il avait donné le contrat à SpaceX qui les avait carrément sauvés, en fait. Ils ont un contrat avec la NASA, ça les a sauvés de la faillite à l'époque. Et depuis, ils sont toujours là. Maintenant, ce sont des contributeurs réguliers et ils vont contribuer aussi au projet Artemis. Ils sont prévus pour même faire probablement les lanceurs du projet Artemis et peut-être même le lander aussi. On verra. Donc oui, ils sont très très impliqués. Projet Artemis, donc le projet de retour d'un homme et en particulier d'une femme sur la Lune d'ici à 2025, si tout va bien. Donc on termine cette rubrique argent, puisqu'on a quand même beaucoup parlé d'argent, avec les résultats financiers de Nvidia, qui finit l'année sur un très bon trimestre, avec une action qui ne cesse de croître doucement mais sûrement. Voilà, si vous avez acheté du Nvidia, c'est bien pour vous. Ce trimestre-là, on a un chiffre d'affaires qui est plutôt bon, mais sur l'année, par contre, ça baisse de 7%. Et on a aussi un bénéfice net de moins 32%. Alors c'est vrai que comme ça paraît vraiment pas génial. En fait, c'était complètement attendu, parce que c'est ce qui reste encore de la gueule de bois post-crypto. Donc il y a eu une grosse frénésie en 2018, hein, souvenez-vous, qui s'est prolongée un petit peu jusqu'au début 2019, et du coup il y a pas mal de vendeurs qui ont encore des stocks d'invendus, donc des grosses cartes graphiques qui donnent des résultats qui en fait se normalise tout simplement. Donc, ce qui est, c'est pas très étonnant. Ce qui est plus intéressant, c'est les secteurs qui rapportent chez Nvidia. Donc, on a moins 12% en cartes graphiques, gaming. Mais par contre, les data centers sont presque à 3 milliards de chiffre d'affaires et sont à croissance de 7%. Le secteur automobile aussi est en hausse et le secteur pro aussi. Donc, le gaming, ça reste la part la plus grosse, en fait, de l'activité de Nvidia. Mais on voit de plus en plus la compagnie s'orienter vers les puces pour data center, portées par la demande en deep learning, et sur les puces embarquées. Donc voilà, c'est marrant parce que depuis une bonne dizaine d'années, maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années qu'Nvidia se diversifie et qui mute comme ça petit à petit avec succès. Donc c'est carrément devenu un acteur majeur du calcul de performance. Mais voilà, il va peut-être aussi contribuer maintenant à l'essor du jeu en streaming, on sait pas.
Peut-être, vas-y. Mais ça les rend vachement moins dépendants du coup des résultats. Alors, finalement, tout ça dépend d'un seul produit, c'est leur puce, qu'elle soit dédiée, enfin, qu'ils l'orientent quand ils la conçoivent plutôt côté jeu vidéo ou côté calcul professionnel. Ça reste, si tu veux, le même produit.
Oui, ça reste leur architecture GeForce.
Voilà. Ouais. Donc, c'est pas non plus la même diversification qu'on voit, par exemple, chez, je sais pas, je veux dire, Google ou même, par exemple, Microsoft qui fait du cloud ou des. Qui fait du cloud, du PC, des services, enfin du jeu, etc., qui fait vraiment des trucs qui sont séparés, qui l'un peut marcher alors que l'autre peut se casser la gueule. Là, bon, si la puce un jour se casse la gueule, c'est pas forcément bon pour Nvidia, mais au moins, si par exemple AMD les rattrape sur le secteur du gaming, bah ils ont encore le secteur du data center et le monde pro qui est peut-être pas encore aussi bon que le gaming, mais vraiment progresse et ça leur donne un nouveau point d'appui, quoi. Ils sont plus autant dépendants juste du cours de la carte graphique, quoi, en gros.
Oui, t'as raison. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit dans les cartes graphiques ou dans les calculs professionnels ou les data centers, c'est toujours les cœurs CUDA qui sont mis à contribution. Encore que, il y a aussi maintenant leur nouveau cœur deep learning qui est donc intégré donc sur certains types de trucs, dans les RTX en particulier. Et puis ils ont aussi leur propre cœur leur propre cœur de CPU hein, qu'ils utilisent occasionnellement dans leur Tegra.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que ça reste le même métier, quoi. Au final, ça reste les trois.
Par contre, effectivement, t'as raison, ça reste toujours du composant, effectivement, et c'est très concentré sur leur architecture GeForce. Ouais. C'est vrai. GeForce, du coup, bah écoute, on peut continuer avec GeForce en passant à cette rubrique jeux vidéo, puisque le jeu en streaming, c'est tendance, parce que le projet xCloud de Microsoft donc s'offre une bêta sur iOS hein, via Test Flight, après avoir fait de même sur Android d'ailleurs, donc GeForce Now, mais qui voulait casser la baraque avec des prix ultra agressifs, se voit perdre quand même le soutien de Blizzard suite à un malentendu, je sais pas trop, c'est, puisqu'il était disponible pendant la bêta, hein, les jeux Blizzard étaient là, et pour l'instant ils ne le seront plus sur GeForce Now, d'ici à ce qu'un accord commercial soit trouvé, ou pas, vu que la politique de Nvidia, il me semblait, c'est justement de ne pas avoir d'accords commerciaux, puisque les joueurs sont censés gérer leur jeu via la plateforme de leur choix. Donc ça met un petit peu en évidence ce que j'aime pas, moi, avec le jeu des maths, et encore plus, hein, finalement, avec les jeux streamés, c'est que rien ne t'appartient. Voilà, t'es à la merci des accords de licence entre les éditeurs, les diffuseurs, les plateformes, plus il y a d'acteurs, moins tu es sûr d'avoir un accès pérenne à tes jeux, moi ça m'énerve. Alors je sais pas, toi, Cassie, Mixcloud, Shadow, Stadia, GeForce Now, j'en passe, voilà, qu'en penses-tu? Tu as un petit préféré ou alors tu es comme moi, plus amateur de jeux en dur?
Alors moi je suis déjà passé un peu trop dématérialisé pour encore avoir vraiment des soucis sur ça. Après, je suis totalement d'accord avec toi que ça peut poser des problèmes. Effectivement, c'est question d'accord de licence et que c'est jamais le consommateur qui devrait en payer le prix. Ça montre à quel point GeForce Now a un peu le cul entre deux chaises, où c'est à la fois c'est clairement une plateforme PC sur laquelle ça tourne, c'est-à-dire que c'est clairement du Windows, c'est clairement des jeux justement Steam, bon jusqu'à présent Battle.net, bon là c'est fermé, mais Steam, Battle.net et ce genre de plateforme, mais c'est les versions vraiment Windows des jeux qui tournent, c'est-à-dire que les développeurs ont pas besoin, comme on voit pour Stadia, de redévelopper ou en tout cas de adapter leur jeu pour GeForce Now. D'ailleurs,
c'était une grande force d'ailleurs hein, de GeForce Now.
Oui, c'est ça. On verra jamais, par exemple, un trailer de jeu où à la fin il y aura le logo PlayStation, le logo Stadia, le logo Xbox et le logo GeForce Now. Quoi. C'est le logo Steam, par exemple, il suffit en vrai théoriquement à ce que le jeu soit disponible sur GeForce Now. Il n'y a pas besoin de l'adapter, quoi. Donc c'est la force de GeForce Now. C'est en même temps un peu sa faiblesse parce que ça rend le truc un petit peu bidouille. Et on voit quand même à quel point ils ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que c'est aussi une plateforme de service avec lesquels ils vont devoir faire des contrats avec les éditeurs et les développeurs. Et là, on voit avec Blizzard Activision, par exemple, qui Activision veut contrôler son catalogue disponible en cloud gaming. Par exemple, si demain ils décident de faire un accord d'exclusivité avec Stadia, bah, ils veulent avoir ce choix-là, en fait, et ils veulent pas être entre guillemets piratés par Nvidia. Et du coup, bah, c'est la question que se doit poser Nvidia de devoir après gérer chaque acteur différemment. Et oui, ça va être compliqué pour eux. C'est un peu un nouveau rôle qu'ils ont en plus. Je pense que Nvidia est pas forcément. Ils sont déjà habitués à converser avec les développeurs et les éditeurs pour, par exemple, proposer des fonctions spécifiques à des au GeForce ou les intégrer dans leur GeForce Experience et tout ça pour les pilotes graphiques. Mais c'est tout autre chose de devoir négocier avec eux leur présence dans un service de streaming, quoi.
Ouais. Non, mais on est d'accord que GeForce Now n'a aucun problème technique. C'est-à-dire que c'est pas un problème technique et que Blizzard ne fonctionne pas sur GeForce Now.
C'est clairement
d'ailleurs,
pas un problème technique.
D'ailleurs, tous les jeux qui sont non compatibles GeForce Now, qui sont marqués non compatibles, qui sont pas dans la liste de compatibilité GeForce Now, c'est pas un problème technique. C'est vraiment un problème de droit. C'est un problème commercial. C'est LCL,
c'est ça.
Sinon.
Vu que c'est ça, c'est littéralement, là, c'est un peu comme Shadow, c'est littéralement un PC dans le cloud. C'est-à-dire que c'est la même plateforme que le PC. Donc, il y a aucun besoin d'adaptation et aucun problème fondamental de compatibilité a priori d'un jeu à partir du moment où il est disponible sur PC, contrairement à Stadia qui est basé sur qui est en gros une base Linux pour dire les choses grossièrement et qui est une plateforme vraiment console dans son ADN, c'est-à-dire que c'est un hardware fixe basé sur un OS développé par Google en gros, enfin ou en tout cas adapté par Google pour les développeurs de jeux. Et les développeurs de jeux doivent développer des versions spécifiques de jeux pour Google Stadia. C'est pour ça que d'ailleurs que le catalogue de Google Stadia est bah, quasi vide du coup, parce que pour l'instant aucun développeur.
Handicap, hein.
Enfin, c'est leur grand handicap, mais voilà, aucun développeur pour l'instant n'a intérêt à développer les jeux.
Ouais, c'est clair. Mais heureusement, tu m'avais relayé quand même un truc qui va tout changer pour Google Stadia,
ah bah oui.
Hein, il me semble.
C'est effectivement qu'ils ont annoncé. Là, l'actualité était assez morte du côté Stadia. Ça y est, ça se bouge. À partir du 20 février, il y a une quinzaine, on va dire, de smartphones qui sont désormais compatibles. Alors, il faut se rappeler que Stadia, c'est pas disponible sur iOS, c'est disponible que sur Android, mais pas sur tous les Android. Attention, c'était disponible que sur les Google Pixel jusqu'à présent. Et là, ils étendent la compatibilité de Stadia avec les Razer Phone, les Asus ROG Phone et les Samsung Galaxy Note et Galaxy S8, à partir du Galaxy S8 pour tous les Galaxy S, et à partir du Galaxy Note 8 et tous les Galaxy Note plus récents que ça. Donc c'est pas le milieu de gamme de Samsung et compagnie, mais c'est tous les hauts de gamme des dernières années qui sont pris en charge, et je ne comprends pas pourquoi c'est aussi lent et pourquoi Google met autant de temps à activer des smartphones Android. Alors que dans le même temps, on en a parlé rapidement, mais bah, GeForce Now est disponible sur Android, sur n'importe quel smartphone. Et xCloud de Microsoft, alors pas en France, mais il est disponible en preview sur n'importe quel smartphone Android, voire même maintenant sur iOS aussi, puisqu'ils viennent de lancer la bêta. Donc je comprends pas pourquoi Stadia met autant de temps. Alors
c'est
leur plateforme Android, c'est à eux.
C'est incompréhensible. Techniquement, je vois pas ce qui les empêche de juste dire, c'est sur Android, voilà, démerdez-vous. Je ne comprends pas. C'est un truc qui me dépasse. Et comme tu dis, effectivement, la concurrence s'organise bien et elle devient féroce. Alors heureusement pour Stadia, c'est pas Shadow qui va leur faire de l'ombre, en tous les cas pour l'instant, parce que ils ont un gros retard, Cassie, mais c'est quand même assez malheureux.
Oui, c'est. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils étaient bien en retard sur ce qu'ils avaient promis. Faut se souvenir qu'en octobre dernier, ils avaient fait une grande conférence pour annoncer vraiment une sorte de grosse version 1.0 de Shadow, vraiment une sorte de lancement à plus grande échelle, plus grand public, en s'alliant avec OVH et tu vois, en ayant des grands noms derrière eux. Avec un bon fonds d'investissement et puis surtout trois offres vraiment impressionnantes où l'offre historique en fait devenait Shadow Boost à partir de 15 € par mois et où t'avais surtout deux nouvelles offres Shadow Ultra et Shadow Infinite où tu pouvais carrément pour 30 ou 50 € par mois avoir 1 Tera de SSD, 32 Go de RAM, une Titan RTX, donc quelque chose de vraiment véloce et qui t'accompagne partout, qui est là aussi disponible sur Android au passage. Mais aussi sur PC, mobile, le client est vraiment disponible partout. Et t'as ton PC surpuissant qui t'accompagne. Enfin, ça, c'est en théorie. Vous savez ce que vendait Shadow en octobre. Sauf que, ils sont super en retard. Ils ont commencé à communiquer sur le fait que les gens qui avaient déjà précommandé seront livrés à partir de février, puis mars, puis d'ici, grosso modo, la fin de l'été. la fin de l'été prochain, donc on imagine bien que c'est 2020, hein, mais la fin de l'été, tout le monde devrait, tous ceux qui avaient précommandé devraient être livrés avec leur offre Shadow. Donc c'est déjà, par rapport à l'annonce de base qui était livraison en février, on a quand même un report de jusqu'à bien 6 mois pour les derniers qui seront livrés en août, quoi. Et pire que ça, c'est surtout qu'aujourd'hui, on ne peut plus précommander l'offre Shadow, ces deux offres-là, l'offre Shadow Ultra et Infinite. Si tu vas sur le site de Shadow, tu peux simplement t'inscrire en liste d'attente et y a marqué que ce sera disponible à partir de 2021 sans plus de précision. Donc on parle quand même, enfin on est en février, c'est-à-dire qu'ils ont plus de visibilité avant au moins un an, quoi, de livraison de leur machine dans le cloud. Donc, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est compliqué.
Moi, je suis très très inquiet. Hein. Je cache pas que je suis très inquiet pour Shadow parce que non seulement les retards s'accumulent et là, c'est carrément l'année prochaine. Enfin, c'est quand même assez énorme. Et surtout, GeForce Now vient jouer sur leur plate-bande de manière vraiment très sérieuse, quoi. Et surtout à des prix qui sont complètement sans comparaison. C'est peut-être que le début. Peut-être que GeForce Now, quand tu leur as pris sa vitesse de croisière, va augmenter les prix, tu vois. Mais Shadow, qui avait des prix vraiment très intéressants jusqu'à maintenant, devient dépassé par GeForce Now. En plus, leur disponibilité s'éloigne de toujours plus loin. Moi, je trouve ça très, très inquiétant, en fait. Hein. C'est vraiment dommage. Même si c'est vrai que Shadow offre un service supérieur par rapport à GeForce Now, puisque c'est un vrai PC sur lequel vous pouvez travailler, par exemple. Tu vois, donc c'est pas tout à fait comparable, mais quand même, 90% des usages, quand même, je suppose, ça va être du jeu vidéo. Enfin, peut-être que j'exagère, mais donc moi, j'ai une vision où c'est 80-90% de gens qui vont...
Clairement, ils communiquent sur la carte graphique, tu vois.
Voilà,
par exemple,
ils communiquent sur le jeu, quoi. Donc les gens vont s'abonner pour jouer. Donc GeForce Now, en fait, est un concurrent dans ce cas-là qui est, à mon avis, très très dangereux et qui risque d'être très difficile à battre. Hein. Donc je suis vraiment inquiet, ouais.
Un des trucs défaillants en plus, enfin moi il y a deux problèmes, j'ai vraiment deux problèmes fondamentaux. Alors d'abord je voulais juste rajouter que la box que tu peux commander qui s'appelle le Shadow Ghost, que tu peux commander en option, c'est une sorte de voilà de box télé ou box ordi que tu peux commander, elle a des retards de livraison, mais alors là pour le coup c'est moins de leur faute, c'est le coronavirus dont on parlait tout à l'heure, qui justement a des problèmes, des répercussions, donc quelque part c'est un peu pas de chance pour eux, mais ils multiplient leurs retards, là pour le coup bon ils y sont pas pour grand chose, hein. Mais du coup, il y a des retards sur cette box-là. Elles sont fabriquées, elles sont en Chine, mais en fait, les employés, comme ils avaient l'interdiction de venir, enfin, ils étaient en télétravail, ils pouvaient pas, tout simplement pas expédier les box. Ça prendra un peu de retard. Et ce que je voulais dire, c'était que pour moi, il y a deux, enfin, fondamentalement, il y a deux soucis. D'une part, comme tu l'as dit, c'est un PC complet. Donc déjà, il y a un souci, c'est que c'est fourni avec de base 256 Go de stockage. Et c'est vraiment un PC que vous devez gérer vous-même, c'est-à-dire que vous devez vous taper les mises à jour Windows, les mises à jour de driver, et les installations et les désinstallations de jeux, alors ok, ils ont des super serveurs, ils ont des super connexions Internet, mais enfin vous devez fondamentalement, genre 256 Go, vous pouvez installer
trois gros
jeux, trois fois Red Dead Redemption quoi, deux, et après faut penser à désinstaller, réinstaller les jeux, et quelque part c'est une pénibilité que tu t'attends pas forcément à avoir dans un service dématérialisé, et pour moi ce problème il est un peu lié aussi de livraison, de report là, c'est que fondamentalement un service dématérialisé, enfin tu vois j'imagine pas. T'imagines si Netflix, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente et espérer avoir accès aux séries Netflix dans un an.
Mais c'est trop, non.
Pour moi, c'est de la folie, quoi. Enfin, l'idée d'un service dématérialisé, c'est justement que limite, tu devrais pouvoir commander et dans les 10 minutes, tu devrais avoir un accès, tu vois, activé, quoi. Après, Shadow est une start-up et ils sont encore en croissance, etc. Mais fondamentalement, voilà, moi, je trouve que la promesse du cloud gaming ou du cloud computing, c'est normalement que tu devrais avoir accès au service dès que tu commandes ou très très rapidement, quoi. Pas sous 6 mois, 1 an, quoi.
Non, mais on est complètement d'accord. Donc, on sait que ça peut être très difficile pour eux et c'est vrai qu'on est assez désolé. On leur souhaite évidemment de régler leurs problèmes le plus tôt possible, mais bon, c'est vrai que là, en l'état actuel des choses, avec les infos qu'on a, ça nous pousse pas à l'optimisme, quoi. Alors par contre, tu parlais du problème d'installer des jeux et de la pénibilité d'avoir désinstallé et réinstallé les jeux. Donc tu as une PS4, je sais pas, parce que moi j'ai une PS4 500 Go, et donc je peux parler de la pénibilité des jeux pour les réinstaller et désinstaller. Alors on parle de la PlayStation 5 qui pourrait avoir une pénibilité un petit peu équivalente. Alors bon, tu sais que la PS4 c'était 400 $, donc la PS5 ce sera 500 $. C'est logique, non? Non, en fait, Sony, elle n'a pas du tout envie de ça. Hein. Il sait très bien que la PS4 a énormément, enfin, le prix de la PS4 a énormément contribué à son succès. Sauf que là, d'après Bloomberg, ben, c'est tendu. Le matos de la machine coûte plutôt cher et Sony n'arrive pas à faire baisser la note sous les 450$. Ce qui veut dire que si Sony veut une machine rentable au lancement comme la PS4 le fut, ben, on s'achemine vers une PlayStation 5 à 500 balles. Bon, il faut dire que le fait que la PlayStation 5 ait un SSD, et un SSD apparemment très rapide, ben, ça aide pas. Alors, il y a un leak 4chan, donc ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est leak 4chan, bon, c'est donc c'est des infos à prendre avec des pincettes, hein, ça vaut pas des masses de trucs.
En général.
Mais bon, ça évoque des SSD entre 3 et 5 gigaoctets secondes de débit, et c'est beaucoup. En fait, des NVMe de ce calibre, ça, c'est 200 balles dans le commerce pour un teraoctet en 3 gigaoctets secondes. Et d'ailleurs, bon, évidemment, ils vont les acheter en gros, donc ce sera moins cher. Donc bon, voilà, mais ça veut dire qu'il y a facilement 100$ qui passent rien que dans le SSD, à mon avis, au minimum. C'est à tel point d'ailleurs que le leak évoque 500 gigaoctets seulement pour la PlayStation 5, qui vise le truc le plus rapide avec 5 gigaoctets secondes. Bon, évidemment, ça va être tendu, surtout qu'après, il y a genre tout le reste, tu vois, en particulier, il va y avoir 16 à 18 gigaoctets de DDR6, en tout cas, c'est ce qui est de GDDR6, ce qui est en tout cas annoncé dans le leak, et un GPU de 12 teraflops, bon, ça, c'est plus ou moins les chiffres qu'on avait, hein. Donc ça dépasse une RX 5700, hein, qui est vendue encore dans les 350€ dans le commerce, donc c'est pas étonnant que ça coince. Bon, 500 gigaoctets sur une PS5, est-ce que c'est vraiment crédible? Et 500€, est-ce que c'est vraiment handicapant, voire carrément rédhibitoire pour la PlayStation 5 pour toi, Kassim?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette news de Bloomberg qui est très intéressante. Alors déjà, sur le stockage, on passe à un stockage SSD. Et ils annoncent tous les deux, que ce soit Microsoft ou Sony, un stockage SSD particulièrement véloce. Donc, qui coûtera particulièrement cher. On parle, par exemple, dans le cas de Microsoft, a priori, on se dirige vers un SSD PCI Express 4.0. Donc, c'est quand même.
Les plus chers. Ouais,
c'est les plus chers et la dernière norme, quoi. Pour le coup, ils seraient pas en retard, quoi. Là, on a l'habitude que les consoles sont un peu en retard sur ce que les PC pouvaient proposer. Là, ce serait pas du tout le cas. Et donc, ça coûte très cher. Moi, ça fait longtemps que je me prépare. J'étais un peu seul dans ce camp-là, mais ça fait longtemps que je me prépare à ce que les consoles n'aient justement pas beaucoup de capacité de stockage. Et ce qui me faisait penser ça, c'était le fait que depuis le début de l'annonce de la PlayStation 5, enfin depuis qu'on en entend parler, Sony communique énormément sur une diminution du poids des jeux par plusieurs méthodes. Premièrement, on ne pourrait installer que certains modules de jeux. Par exemple, je sais pas, je joue à Uncharted. Il y a que le mode solo qui m'intéresse, je veux pas jouer au multi. La console va te proposer de n'installer que le solo, ça c'est déjà annoncé. Autre chose, c'est par exemple que Mark Cerny, qui est l'architecte de la console, a déjà expliqué que à l'époque des disques durs, ils étaient obligés de faire de multiplier les données, de faire de la redondance de données.
Dans le cas du streaming, dans le cas où on stream le jeu comme dans Red Dead Redemption 2 par exemple
ou Spider-Man, bah, qui sont typiquement les jeux les plus gourmands en termes de stockage de la génération précédente, c'est parce que pour accélérer le fait que c'est un disque qui tourne, et pour accélérer les chances de tomber rapidement sur la bonne donnée quand le disque tourne, bah tu mets plusieurs fois sur le disque, en gros il tourne pas, mais bref, tu mets plusieurs fois la donnée.
Si, c'est ça. Il duplique la donnée parce qu'elle doit être chargée. Quand elle doit être chargée, c'est vrai qu'il faut qu'elle soit proche physiquement sur le disque.
C'est ça.
Et pour qu'elle soit proche physiquement sur le disque, il faut pas que la tête bouge, donc il faut pas qu'elle soit stockée à un autre endroit. Il faut qu'elle soit stockée là où on est, quoi. Donc c'est un petit peu. Oui, effectivement, il y a pas mal de redondance à cause de ça.
C'est ça. Et donc la SSD, t'en as plus besoin, puisqu'il n'y a plus rien qui bouge et que la donnée, elle est accessible quasi instantanément, où on n'est plus du tout sur les mêmes ordres de grandeur, en tout cas. Du coup, il y a ce facteur là et le dernier facteur, c'est Microsoft qui en a parlé il y a pas longtemps avec une des boîtes qu'ils avaient racheté, qui est un middleware de développement et qui travaille ardemment sur la possibilité de créer des textures. Tu sais que ce qui prend le plus de place dans les assets, dans les consoles, dans les jeux, c'est les textures qui sont de plus en plus grosses, parce que pour la 4K, etc., il faut de plus en plus de textures précises. Et là, le studio, la boîte de Microsoft travaille sur la création de textures beaucoup basse définition, en fait, ou beaucoup plus faiblement définies. Et c'est l'intelligence artificielle et des moteurs des algorithmes, en fait, qui upscale intelligemment la texture à la volée en temps réel. Et du coup, forcément, elle prend moins de place à stocker. Et ça fait partie des, constater qu'ils ont ça comme axe de recherche, ça montre bien que ils se préparent à des consoles qui, à des jeux qui vont prendre de plus en plus de place, et donc il faut optimiser la place qu'ils prennent, et dans le même temps des consoles qui vont pas pouvoir augmenter énormément leur stockage. Donc tout ça, l'un dans l'autre, bah il faut faire en sorte que les jeux, essayer d'optimiser au mieux la place prise par les jeux, supprimer la redondance, supprimer les options, supprimer, tu vois, avoir des textures plus petites si possible. Tout ça, ça va dans le même sens. Donc je me prépare vraiment à des consoles qui n'auront pas beaucoup de stockage.
En fait, le truc, c'est que tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'ils sont en train de se battre contre les limitations du SSD, qui sont le prix par gigaoctet, quoi.
C'est ça.
C'est tellement cher que tu peux pas te permettre d'avoir une console avec 4 gigas de stockage, alors que ce serait beaucoup mieux, parce qu'on s'attend effectivement à ce que les jeux soient beaucoup plus gros. Donc en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est en gros que les jeux soient pas beaucoup plus gros que cette génération-là, parce que nos stockages sont apparemment pas beaucoup plus gros que, voire carrément identiques, hein, parce que 500 gigas et 1 tera, c'est clairement les mêmes stockages que maintenant, quoi. Et moi, ça m'inquiète un peu, quelque part.
Oui, mais j'imagine. Et pour le prix de la console, d'ailleurs, on avait vu aussi dans le même sujet que Xbox prépare la possibilité d'avoir un stockage externe, enfin des cartes de stockage potentiellement à insérer dans la console pour augmenter le stockage. Donc là aussi, on sent qu'il y a des réflexions, en tout cas dans ce cadre-là.
Ce qui serait tout à fait gérable en NVMe, par exemple.
Ouais.
Ce serait en fait, on pourrait très bien imaginer des petits trucs M2 comme dans les portables à insérer, qui rajouteraient 500 gigas comme ça. Oui, ce serait tout à fait envisageable. Ouais.
Et pour revenir sur le prix plutôt plus directement de la console, faut se rappeler qu'à l'époque, les consoles historiquement étaient vendues à perte jusqu'à la PlayStation 4 justement, où Sony pouvait plus se permettre de le faire. Mais historiquement, les consoles étaient plutôt vendues à perte. C'est-à-dire que Sony se faisait de l'argent plutôt comme les rasoirs ou les imprimantes. Sony se faisait de l'argent sur le consommable, c'est-à-dire le jeu vidéo, sur la vente de jeux vidéo, et du coup avec la PlayStation 4, ils pouvaient plus. À l'époque, la PlayStation 3 a coûté $800, je crois, à produire, quelque chose comme ça, plus de $800, et ils la vendaient $600, ce qui était déjà beaucoup trop cher. Donc il y avait quand même 200€ de perte brute sur chaque console vendue. Faut imaginer quand même, c'était une autre époque, hein. là on parle d'être à l'équilibre, et il y a visiblement quand même des dissensions au sein de Sony, où il y a des groupes, notamment les développeurs de jeux, qui aimeraient une console un petit encore plus ambitieuse, quitte à la vendre à perte. Alors il y a quand même un élément important à mentionner qui a changé dans l'histoire de Sony depuis, c'est la montée en puissance des services, notamment du PlayStation Network, du PlayStation Plus, PlayStation Now, et la vente de jeux sur le store a explosé sur la génération PlayStation 4, et donc ils ont beaucoup plus de revenus réguliers qu'avant, et donc ils peuvent un peu plus facilement amortir une éventuelle console vendue à perte, ou en tout cas un peu plus facilement amortir la recherche, la R&D. Donc ils peuvent plus facilement avoir quelque chose d'ambitieux ou le vendre plus cher s'il faut. Le gros problème pour eux, c'est ça qui va définir. C'est pour ça qu'ils sont à ce point-là dans l'attente et dans l'hésitation. C'est Xbox en fait qui va se lancer en même temps. Et il faut surtout pas une PlayStation 5 à $500, c'est aucun problème, il y a pas de souci. Si la Xbox elle est à $500 aussi. Si par contre t'as une PlayStation 5 par exemple qui est à $500 et t'as la Xbox qui est à 450 ou $400, parce que Microsoft lui a largement les moyens, contrairement à Sony, de se permettre une perte par exemple sur les consoles vendues, ou parce que aujourd'hui Sony tient l'argent que par la PlayStation, voilà, c'est une situation qui est beaucoup plus complexe pour eux. Imaginons une PlayStation 5 qui est à $500 mais avec 500 gigas. Si en face t'as une Xbox avec 1 tera de stockage pour $500, bah ça peut être compliqué aussi. Et en plus sur toute cette dose de complexité, vous rajoutez le fait que le prix du SSD il est plus entre les mains. C'est pas comme le disque dur qui était très
plus stable, c'est ça.
C'était beaucoup plus stable et ils avaient que les fabricants de PC finalement comme concurrents directs. La mémoire flash, il y a un gros concurrent aux consoles de jeux qui est beaucoup plus populaire que les PC portables, c'est les smartphones et les tablettes, surtout les smartphones. Et enfin, en gros, là pour négocier les prix, en gros, Sony ils ont comme rival Apple quoi et Samsung, et c'est un peu c'est un tout autre taille de négociation. Et
tu crois, parce que c'est pas tout à fait le même type de flash quand même. Là on parle de flash ultra rapide, alors que c'est quand même beaucoup moins rapide, beaucoup moins performant sur un téléphone mobile, non? Parce que là on parle quand même de débit à 5 gigaoctets par seconde.
Sauf si je me trompe, la mémoire NAND vraiment de base est la même, c'est c'est l'assemblage de la NAND après avec
si tu as
un contrôleur, etc.
Le
bloc entier effectivement qui rend le SSD très cher, notamment le contrôleur, mais la mémoire, la mémoire flash, il me semble, est commune au marché d'une manière générale. Après, c'est il me semble, hein, après je dis peut-être une bêtise.
Bah, il y a différents types de cellules, mais bon, effectivement, c'est vrai que oui, t'as raison, que c'est pas du tout les mêmes contraintes, parce que c'est vrai que les prix fluctuent beaucoup plus aussi sur les SSD. Donc ouais, ça peut être vraiment compliqué. Mais donc toi, tu penses que Sony pourrait se permettre d'avoir une machine à $400 qui coûte $450 par exemple à fabriquer pour faire la nique à Microsoft, qui apparemment serait prêt à lancer sa série X à 500 lui. Hein.
Oui, en tout cas, c'est marrant. Tu vois qu'ils sont vraiment dans l'attente chacun, parce que Microsoft, clairement, ils se préparent sur du environ $500. Mais toutes les déclarations du patron de Xbox, c'est on sera à performance et prix égal à la PlayStation 5. Il n'y a pas question d'être plus cher comme la dernière fois. Donc,
quoi que ce soit, ils s'alignent. Quoi. 200 balles,
c'est
ça, ils s'alignent.
En plus, Microsoft, derrière, ils ont... par rapport à la génération précédente, il est vice-président directement derrière Nadella et tout. Enfin, il a le budget pour s'il faut sortir l'artillerie, ils peuvent y aller, quoi. J'ai l'impression, en tout cas, ils se préparent, en tout cas, s'il y a besoin de s'aligner et pas du tout être en retard comme la dernière fois, quoi.
Bon, bah écoute, donc là, c'est super intéressant, effectivement. On verra ça. On aura bien entendu des informations supplémentaires quand Sony daignera nous en donner plus.
Parce qu'on a rien,
sans
quand même.
Doute.
C'est ouf.
C'est fou. Bon, enfin, en tout cas. Allez, on passe aux news en vrac avec Mark Zuckerberg, hein, qui a dévoilé un livre blanc décrivant la manière dont il voudrait être régulé. Mais oui, vas-y, régule-moi. ni éditeur responsable du contenu, il faut pas déconner, ni tuyau neutre complètement, hein, donc il imagine une sorte de voie du milieu, une voie du milieu qui, telle la voie choisie par Siddhartha Gautama pour atteindre l'éveil et la libération du karma, éviterait donc les passions extrêmes tout en ménageant la liberté de chacun. Voilà, les plateformes donc auront une obligation de moyens et devront atteindre un certain but chiffré, quant à la modération de leur contenu, quoi, hein, il devrait aussi y avoir des règles claires de ce qui peut être dit en ligne, qui peut cadrer ou pas complètement avec ce qui est légal. Donc c'est une voie qui, globalement, est déjà empruntée, hein, par le disciple Facebook, qui a une armée de modérateurs, hein, et plein d'algorithmes de tri, et qui s'audite d'ailleurs lui-même régulièrement. Donc c'est un début de discussion qui va sans doute dans le bon sens, mais c'est certainement pas une fin. Hein. D'ailleurs, le membre de la Commission européenne Thierry Breton a réaffirmé que Facebook devrait s'adapter aux règles européennes, et pas l'inverse, des règles qui devront arriver bientôt, apparemment peut-être cette semaine, qui vont concerner d'ailleurs autant les entreprises américaines que chinoises. Bon voilà, Facebook qui... C'est marrant, donc, quand même, Facebook qui te dit comment est-ce qu'il faut le réguler, qui donne des idées en tout cas.
Oui, c'est bon. Mais... Après, c'est un sujet qui, enfin, bizarrement, qui leur tient. Enfin, bizarrement, non, mais c'est un sujet qui leur tient à cœur. C'est un truc sur lequel ils travaillent souvent et sur lequel ils s'expriment souvent. On se rappelle aussi du. Tu sais, ils avaient lancé l'idée de leur sorte de conseil indépendant.
Oui, complètement. C'était leur cour suprême, une sorte de cour
un
suprême.
Un peu, ouais, voilà, une sorte de cour suprême. Bon, après. Beaucoup de déclarations d'intention de la part du petit Marc. Je ferai mieux au prochain trimestre.
Ouais, c'est un petit peu pareil. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Facebook, toujours, qui s'associe à Reuters pour le fact-checking avant les élections US, hein, 4 personnes vont passer en revue les posts des utilisateurs, pas les pubs, évidemment. Oui, 4 personnes, c'est énorme, je sais. Bon, heureusement, il n'y aura pas que Reuters, il y aura aussi les gens de CRH Associated Press, PolitiFacts et Fact-Check.
Le fact-checking
chez
pub,
Facebook,
hein.
ça t'évoque quoi? Toi, 4 personnes chez Reuters, quand même, c'est
bah, fondamentalement, le souci, enfin, vraiment le souci majeur qui est en train de se profiler sur Facebook et qui est déjà le cas, c'est leur publicité, le fait que la politique peut payer des pubs, en fait, et diffuser un peu tout et n'importe quoi sans modération en termes de messages. Et aux États-Unis, la publicité politique, c'est un tout autre univers que ce qu'on connaît, nous, en France ou dans les pays francophones, c'est quelque chose. ça peut être des publicités qui ne parlent même pas de ton candidat ou de tes idées, mais juste purement quelque chose qui va tenter de dire du mal du candidat adverse et surtout diffuser de la fake news à gogo et des trucs dans le genre, quoi.
Ouais, mais de toute façon, c'est clair que ça va partir en couille seconde lune. D'ailleurs, ça a déjà commencé un petit peu dès que l'Alexio va être lancé officiellement. On va compter les points. Je pense qu'il va y avoir des subreddits remplis de florilèges, tu sais, des pubs politiques les pires. D'ailleurs, c'est peut-être un truc qu'on devrait lancer, ça. Mais bon, en parlant de politique, en parlant de pubs plutôt, On conclut avec Twitter, hein, qui s'illustre une fois encore en faisant passer des pubs pour du trafic d'organes. Oui, oui, comme ça, détente. C'est, je sais pas, c'est un journaliste freelance qui a vu passer dans son flux une annonce qui lui vendait des reins, pas cher. Dommage, hein, il n'avait pas besoin de reins. Alors, il a relayé ça à Gizmodo, qui en a profité pour pointer à quel point la pub sur Twitter, c'était n'importe quoi. Je sais pas, toi, Kassim, qu'est-ce que tu vois dans ton flux Twitter? Est-ce que tu as des trucs magnifiques comme ça, entre deux scams pour le Bitcoin? Non, ça, c'est fini, je crois, les trucs pour les cryptos.
Alors les trucs pour les cryptos c'est fini, il y a quand même du scam par contre sur Twitter en France aussi. Si vous avez vu passer notamment des tweets sponsorisés qui vous invitent à lire des articles sur Jean-Pierre Pernaut, et ou si vous vous demandez si Jean-Pierre Pernaut va vous rendre riche via un tweet, n'hésitez pas à aller lire. On a un super article qui est publié aujourd'hui, donc je me permets de faire la pub Cyberguerre, donc de Numérama. Qui a été écrit par François et donc qui revient un peu sur toutes ces affaires parce que ça a fait beaucoup parler de lui. C'est vraiment, enfin c'est un faux tweet sponsorisé qui donne l'impression de parler de Jean-Pierre Pernaut. Ça amène sur un lien d'un site frauduleux qui se fait passer pour le Journal du Dimanche, qui est toujours sur un article qui concernerait a priori Jean-Pierre Pernaut. Quand tu lis le nom de l'auteur, c'est un écrivain. Un journaliste, pardon, du média CNN, qui est apparemment à ses heures perdues quand il travaille pas pour CNN aux États-Unis, il écrit des articles pour le Journal du Dimanche qui parle de Jean-Pierre Pernaut, bizarrement. Et donc tout ça mène à, en gros, une histoire de crypto, une arnaque à la crypto. La crypto-monnaie est encore là, hein, juste elle est un peu plus camouflée qu'avant. Et tout ça pour dire que oui, Twitter en ce moment c'est un peu légion les arnaques. Et j'en profiterai aussi pour dire que tu me demandais ce que je voyais dans ma timeline. Bah, dans ma timeline, je vois aussi beaucoup de conneries à cause de la fonction liste que Twitter a mis en place il y a pas longtemps. Enfin, c'est pas de liste, c'est sujet, pardon. Maintenant tu peux t'inscrire à t'abonner à des sujets de conversation genre le jeu vidéo par exemple, et ça va te mettre dans ta timeline des tweets de personnes complètement random que tu ne suis pas ou que t'es même pas que des gens que tu suivent ou des trucs comme ça, non des tweets complètement random qui parlent de jeux vidéo, et bien sûr plus le tweet en question a été retweeté, liké, vu, a fait de l'interaction, plus il a de chances d'apparaître dans les timelines des gens qui suivent ce sujet. Ce qui fait que le sujet est rempli de soit de fake news, soit de reprises de rumeurs, soit de, dans le cas du jeu vidéo, de la guerre des consoles un petit peu, avec des fanboys PlayStation qui vont insulter la Xbox et donc être likés, ou au contraire des fans de Xbox qui vont dire que « oulala, Nintendo, c'est le mal ». Je me pose vraiment des questions sur ce que fait Twitter et ce qu'ils font pour essayer d'améliorer. Enfin, c'est plus ça va, moins il y a de contenu de référence sur Twitter, j'ai l'impression, et donc j'ai l'impression que ça va aller à contresens de ce que ça devrait essayer de faire, quoi.
Ouais, c'est presque inquiétant pour Twitter, effectivement, qui fait apparemment un peu n'importe quoi pour... Bon, évidemment, hein, ils font des millions de dollars en publicité. Bon, ça vient, cet argent vient de quelque part. Mais c'est un petit peu étonnant, ouais. On en viendrait presque à regretter le non-ciblage, puisque manifestement, c'est pas très très bien ciblé tout ça, hein, mais bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est... Ce que je retiens aussi, c'est que, aux États-Unis, ils ont beaucoup de scams à base d'Elon Musk, Elon Musk va vous rendre riche, etc. Et en France, c'est Jean-Pierre Pernaut, donc voilà, c'est un petit peu notre Elon Musk à nous, je suppose. Bref. On peut conclure avec une petite innovation rigolote. Enfin, j'ai trouvé ça assez marrant parce que bon, voilà, dans les films d'espions, on trouve, tu vois, quand t'as un film d'espion où tu crois que t'es écouté, on ouvre les robinets, on met de la musique, tu vois, pour pas se faire entendre par les micros qui sont posés par le MI6 ou par les Chinois ou la Stasi, je sais pas. Mais bon, les temps ont changé. Désormais, on met nous-mêmes des micros dans nos maisons. Donc, je suppose que c'est pour éviter qu'ils nous entendent. Hein. On pourra toujours ouvrir les robinets comme avant, mais c'est pas écologique, ou mettre la musique à fond, hein, mais c'est pas pratique pour discuter. Alors il y a des chargeurs chinois qui ont mis au point un bracelet avec pas moins de 24 micros qui diffusent des ultrasons capables d'induire des erreurs dans la reconnaissance vocale d'un Alexa ou d'un Google Home. Alors comme c'est des ultrasons, tu les entends pas, mais lorsqu'ils éteignent le micro d'Alexa, le signal déborde dans le spectre audible à cause d'une non-linéarité du haut-parleur. c'est du micro. C'est du point de vue du micro, quoi. C'est uniquement lui qui sature, en quelque sorte. Donc, résultat, ta voix est déformée et par connue. Le prototype est assez compliqué, les émetteurs sont très directionnels, donc il en faut plein pour couvrir le 360 degrés, d'où les 24, pour qu'il n'y ait pas d'angle mort, hein, même quand tu bouges. Et en plus, c'est vraiment très gros. Par contre, ça pourrait être miniaturisé et vendu pour quelques dizaines d'euros à terme, donc c'est quand même assez marrant de voir qu'il y a des technologies qui peuvent contrer des technologies qu'on a de notre plein gré installées. Mais bon, ce qui est cool, c'est que si vous êtes un petit peu parano et que vous allez chez des amis qui ont un Alexa ou un Google Home, vous pourrez toujours mettre ça et parler tranquillement, quoi. C'est quand même rassurant, quelque part.
J'ai très hâte de voir la version AliExpress à 5$ qui ne marchera pas avec un petit aimant dans le bracelet pour te faire croire que ça démagnétise ton Linky. Voilà.
Ah oui, c'est oui, mais comme un petit peu comme les bracelets New Balance là.
Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça que j'avais en tête.
Ah mais c'est sûr, de toute façon c'est certain ça. Allez, c'est comme les anti-moustiques aux ultrasons, on n'achetait pas, ça marche pas. Hein. J'ai testé pour vous. Enfin bon, bref, ça conclut notre émission. Bah, je pense qu'on a déjà parlé de pas mal de trucs. On va peut-être passer au bonus. Cassim, est-ce que tu as un bonus, quelque chose à nous conseiller ou éventuellement un coup de gueule, hein. Vas-y, tu peux y aller, lâche-toi.
Non, j'ai plutôt des trucs à recommander. C'est deux outils que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça ou que j'ai redécouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier, c'est Language Tool, donc outil langue. Je ne sais pas comment on le traduire bizarrement. Non, Language Tool, c'est un correcteur orthographique à installer sur votre navigateur préféré. Il y a des extensions pour à peu près tout. Il y a Edge, Firefox, Chrome, voilà. Et ça va corriger l'orthographe et la grammaire de vos phrases à la volée. C'est gratuit. Il y a une version payante si vous voulez aller plus loin, mais la version gratuite suffit largement. Et c'est vraiment, ça marche très bien. C'est vraiment très bien pour une utilisation basique. D'un bon correcteur orthographique, donc c'est très cool, je vous recommande en tout cas. Ça s'intègre à Google Docs et compagnie, donc c'est vraiment bien fait, et c'est si vous connaissez des outils comme Antidote, ça fait presque aussi bien. Antidote va encore un petit peu plus loin, mais ça fait presque aussi bien, c'est gratuit et c'est surtout plus moderne dans l'approche que ça vous fait de vous présenter les corrections. Enfin, ça, tu sens que ça prend pas beaucoup de ressources, etc., quoi. Donc voilà, je vous recommande l'outil. Et le deuxième sera encore plus rapide à recommander, c'est DeepL pour Deep Learning, on imagine. C'est un traducteur qui supporte pas mal pas mal de langues assez importantes. Moi, je l'utilise surtout de l'anglais vers le français pour traduire des textes parfois. Alors, je comprends l'anglais, mais ça me permet de, notamment pour mon travail, des fois de traduire certaines trucs officiels, de déclarations officielles d'une marque, par exemple. Ça ne traduit pas, je ne crois pas que ça traduise des pages entières comme peuvent le faire, par exemple, Google Traduction.
La version gratuite est limitée en nombre de mots, je crois. C'est 4000 mots ou 3000 mots, je ne sais pas.
C'est ça, et c'est plutôt pensé pour du copier-coller de texte. Mais par contre, je trouve la traduction particulièrement efficace, même sur des paragraphes de texte assez longs. Je la trouve plus efficace que Google ou Bing ou je sais pas, enfin les autres services, quoi. Et donc je vous recommande DeepL pour traduire des textes, en tout cas d'essayer. Du coup, c'est un indépendant, je crois. Ils font ça entre guillemets dans leur coin.
Tout à fait. Ouais. Non, mais merci Cassim. Moi aussi, je connaissais DeepL et c'est vrai que je peux aussi te rejoindre complètement sur le fait que c'est tout à fait recommandable, c'est très efficace et je vais essayer Language Tool de ce pas. Je suis toujours preneur d'un correcteur grammatical efficace pour corriger mes grosses bourdes que je fais en écrivant trop vite. Quant à moi, j'ai un bonus. Alors j'avais un bonus rigolo et débile, mais finalement je me suis dit que j'allais mettre un bonus sérieux, je sais pas, en l'honneur de l'invité, un bonus un petit peu plus sérieux. Et donc ce sera Concordance des temps, qui est un podcast de France Culture. Oui, n'est-ce pas? Et Concordance des temps, donc je peux recommander le podcast en général. Hein. C'est globalement, on prend des faits d'actualité, puis on compare avec des... on les met en perspective avec l'histoire, tout simplement. Donc voilà, c'est un podcast très, très sérieux, avec des invités très sérieux, des universitaires. Et je le recommande en particulier maintenant, parce que le dernier épisode concerne la peur des vaccins, d'où vient la peur des vaccins, qui est absolument pas quelque chose de moderne et qui a absolument toujours existé, même avant que les vaccins n'existent. D'ailleurs, vous comprendrez si vous écoutez... Pourquoi si vous écoutez l'épisode? Donc, si vous n'écoutez pas Concordance des temps, tous les épisodes, vous pouvez quand même essayer celui-ci qui est vraiment très bien fait et qui met complètement en perspective positive, c'est cette tendance anti-vax qu'on voit ressurgir périodiquement, et effectivement, avec évidemment avec le coronavirus, c'est complètement d'actualité, quoi. Donc je vous conseille en tout cas le dernier épisode de Concordance des temps, l'avant-dernier épisode étant sur les sorcières, je vous le conseille aussi, mais évidemment c'est quand même un autre sujet, on va dire. Bon, écoute, je crois qu'on est arrivé à terminer notre émission, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire sinon à vous remercier tous de votre écoute. Hein, Kassim, est-ce qu'on peut te retrouver, toi, pour échanger avec toi, pour écouter ta mélodieuse voix ou lire tes magnifiques
toujours
textes
plus.
Sur Internet?
Bien sûr, on peut me retrouver déjà sur Twitter, @notkassim, NOTC2SIM, où vous pouvez venir me parler, me dire à quel point j'ai été bavard, j'ai dit trop de « e » ou « j'ai dit des bêtises ».
Mais pas du tout, pas du tout, tu seras toujours bienvenu ici.
N'hésitez pas. Et surtout, « e ». Sinon, vous pouvez me retrouver dans « Salut Teki » où je « e » beaucoup moins, ou en tout cas, ça passe moins après le montage, qui est le podcast de Frandroid, « Salut Teki ».
Bah écoute, très bien, c'est effectivement, « Salut Teki » est un podcast très sympa, très très sympa, donc je vous le conseille aussi au passage. Quant à moi, je suis Guillaume Podjespala, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café. D'ici là, portez-vous bien, et puis si vous avez 5 minutes, pourquoi est-ce que vous ne mettriez pas 5 étoiles sur iTunes? C'est pas mal, ça, c'est gratuit, c'est simple, c'est facile, ça fait ultra plaisir, vraiment, et puis évidemment, ça contribue à la visibilité du podcast, alors n'hésitez pas, si vous l'avez déjà fait, créez un autre compte Apple pour le refaire, et voilà, créez plein de comptes Apple, merci à tous en tout cas, merci de nous écouter, merci à tous les auditeurs, et en particulier aux Patriotes qui nous soutiennent, merci beaucoup, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, bonsoir.
Ciao.